Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct jusqu'à 12h30. Alors ce matin, ma chère Julia, par quoi on démarre ?
Eh bien Mélanie, on va aujourd'hui s'intéresser au réconfort, à l'écoute, à l'empathie. Et on va se poser cette question, pourquoi consoler les autres ou se faire consoler nous fait autant de bien ? Et pour en parler, nous recevrons le psychiatre et écrivain Christophe André. Nous allons détailler avec lui comment apprendre la consolation, pourquoi est-ce parfois si difficile de l'accepter, si délicat également de la proposer. Ce sera une émission doudou, presque un remède que l'on vous propose aujourd'hui.
Et puis Julia, à 11h35, il y aura comme chaque jour notre dossier santé bien-être du jour. Aujourd'hui, focus sur nos dents. Si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous verrez que se faire poser des facettes, autrefois l'apanage des stars à l'américaine, eh bien, c'est la mode désormais chez les plus jeunes. Mais il y a de nombreuses dérives. On fera le point sur les risques, mais surtout sur les véritables indications pour les facettes. C'est le docteur Kevin, chirurgien dentiste, qui nous expliquera tout cela.
Ensuite, Mélanie, à midi, ce sera notre séquence tendance avec notre trio de chroniqueurs. D'abord, Sophie Braffman, notre spécialiste mode, qui va nous parler des nouveautés du côté des dessous masculins. Une chronique très branchée, vous l'entendrez, spéciale pour ces messieurs. Ensuite, il y aura la chronique de Soizic Belin, toujours à l'affût pour nous des loisirs qui ont le vent en poupe. Aujourd'hui, elle va nous parler d'une appli, ou plutôt d'un réseau social d'un nouveau genre. Ça s'appelle Kiligi, et c'est tout l'inverse de Twitter ou Instagram. Il s'agit d'un réseau social bienveillant, conçu pour prendre soin de soi et des autres. Apparemment, sur ce dernier, on ne partage que des ondes positives.
Et enfin, Julia, on terminera ce tour de table des tendances ce lundi avec les conseils beauté de notre experte Maud Ravier. Aujourd'hui, elle va nous inviter à prendre soin de nos pieds.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous. Vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Alors ici, vous le savez, on tente de vous être utile au quotidien. On partage avec vous tout au long de l'émission nos meilleurs conseils, nos bons plans pour vous rendre la vie plus douce. Et c'est ce qu'on va faire dès à présent avec notre première question ce matin. Pourquoi consoler ou se faire consoler nous fait autant de bien ?
Eh oui, Julia, même si c'est pas facile pour tout le monde de se laisser aller dans les bras de quelqu'un qui veut nous aider, nous donner de la douceur, de la fraternité, les secrets des bienfaits du réconfort, qu'on le reçoive ou qu'on le donne. On va détailler cela dans quelques minutes avec notre invité, le psychiatre et écrivain Christophe André. Mais avant ça, on va demander son avis à celui qui, à sa façon, nous console chaque matin. Au début de cette émission avec ses traits d'humour. C'est bien sûr Clément Lanoux. Bonjour,
bonjour
Clément.
Bonjour tout le monde. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de comment consoler quelqu'un quand il est face à nous et qu'il pleure. Et je me suis intéressé d'abord aux enfants qui m'ont avoué que parfois, ils faisaient semblant de pleurer juste pour être consolés. Mmh. Et je leur ai demandé, mais c'était quand la dernière fois ?
C'était sur le canapé à la maison pour que Rose me fasse un câlin, c'est ma petite sœur. En fait, j'ai fait ouais, j'ai mal. Et Rose, elle fait tout le temps des câlins, elle fait un bisou, on a mal.
J'étais à la maison et j'ai fait semblant de pleurer pour qu'on s'occupe de moi.
Mais ouais,
ça marche bien ça.
Alors pour les enfants qui sont peut-être non pas à l'école mais qui nous écoutent aujourd'hui, comment faire semblant de pleurer ? Est-ce qu'il y a des techniques ?
Moi souvent, je mets de l'eau au bord de mes yeux pour faire semblant d'avoir des larmes.
Moi je connais une seule technique, c'est la seule. Pour faire pleurer, c'est éplucher des poireaux.
Ça fait pleurer d'éplucher des poireaux ?
Non, mais ça me fait pleurer de les manger.
Ouais, ça me fait pleurer de les manger. Je crois qu'il confond avec les oignons, les poireaux. J'ai pas essayé, mais a priori, tout va bien, ne pleure pas. Là, c'était bien sur les enfants. Maintenant, je vais te tourner vers les adultes. Et en tant qu'adulte, ceux qu'on console le plus, c'est ceux qui souffrent de chagrin d'amour. Alors, comment consoler un ami ?
Bah, on lui ramène un bon petit plat, des bonbons, des petites bêtises pour penser à autre chose, je sais pas, sortir, aller boire un verre.
L'inviter à une soirée chez soi, discuter de ce qui s'est passé, trouver des points positifs, regarder vers l'avenir et...
Bah tu finis, c'est pas grave, ça va aller, il en trouvera d'autres.
Le fameux une de perdu, 10 de retrouvé qu'on n'a jamais effectivement retrouvé. Alors comment se remettre d'un chagrin d'amour ? J'ai demandé à deux jeunes femmes que j'ai croisées dans la rue.
Bah, je me suis dit que je valais mieux que cette personne-là et que je trouverais bien quelqu'un d'autre qui m'irait.
Il faut attendre un petit laps de temps et ensuite rappeler tous les défauts de la personne.
Pas mal.
Ça c'est pas mal, bien noter sur un papier ou sur un mur même tous les défauts de la personne
pour se consoler, ça permet... comme ah, ouais. Ça, d'accord.
Parce que sinon on oublie avec le temps, on se dit oh j'étais bien avec lui. Non, voilà pourquoi je l'ai quitté. Voilà pourquoi ça s'est terminé. Après je suis tombé sur des lycéens, sortie d'école, j'arrive, un groupe de lycéens, on parle de chagrin d'amour. Alors selon les âges, on n'a pas la même notion du temps. Combien de temps dure un chagrin d'amour ? Ils ont essayé de répondre à cette question.
Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont vite passer à autre chose. Ils vont savoir prendre sur eux et essayer de voir le positif. Et puis, on a, ça va être long. Après, ça dépend de la durée de la relation aussi.
C'est un lycéen, ça?
Ça, c'est un lycéen. Lycéen qui a beaucoup redoublé.
Mathieu, hein,
voilà. Il y a les vrais lycéens. Ceux de seconde, lui, c'était vraiment BTS. Non, BTS, mais dans un lycée. Et là, les secondes sont arrivées avec notamment le lover du groupe.
Moi, ça n'a pas duré ultra longtemps. Ça a dû durer peut-être 2 semaines.
Ouais, deux semaines, je m'en suis remis sans problème. Et puis, il y a même le beau gosse du groupe.
Ça dépend. Si par exemple, tu es resté 3 ans avec une personne, ça peut durer 1 an où tu es dans le chagrin, tu n'es pas bien du tout.
Ouais, voilà, je suis dans le chagrin, enfin, je suis
moi,
pas bien.
Pas vécu ça.
Il a pas vécu ça. T'as vu, j'ai pas vécu ça. Ouais, voilà, va. Merci les enfants, merci les ados, merci les adultes. Comment se consoler? La réponse tout de suite.
Eh bien, merci. Surtout à vous, Clément Lanoux, pour cette introduction déjà très riche d'infos sur notre sujet du jour. Vous restez encore un peu avec nous, car on va maintenant accueillir ensemble notre invité. Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et écrivain, et justement, vous venez de publier ce livre, Consolation au pluriel, celle que l'on reçoit, mais aussi celle que l'on donne, aux éditions L'Iconoclaste. Est-ce qu'il y a des peines qu'on peut trouver illégitimes à tort?
On peut les trouver illégitimes, mais comme vous le dites, c'est en général à tort. On est toujours assez mal placé pour juger de la pertinence, la valeur d'une peine. Hein. C'est La Rochefoucauld, le moraliste, qui disait « On a toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui. Mm-hmm. » C'est-à-dire, quand c'est l'autre qui souffre, effectivement, c'est assez simple de se dire « Oh ben non, il n'y a pas de quoi pleurer. » Mais en fait, quand quelqu'un est confronté à une peine, le chagrin d'amour dont vous parliez à l'instant, ou quoi que ce soit, d'autres qui nous semblent surmontables, on ne sait jamais en fait à quoi cette peine fait écho. Si toute mon enfance, j'ai eu l'impression que mes parents ne s'occupaient pas de moi, que chaque fois qu'ils partaient, j'avais l'impression qu'ils m'abandonnaient, les chagrins d'amour vont être destructeurs pour moi. Sinon, si je suis plutôt dans une logique de stabilité psychologique par rapport au lien, si j'ai une bonne estime de moi-même, si je sais qu'on peut m'aimer ou ne pas m'aimer, mais que tout ça fait partie de la vie, le chagrin d'amour va me faire une peine normale et je vais juger que c'est la même chose chez les autres. Mais en gros, le message, c'est ne jugez jamais si quelqu'un a le droit d'avoir de la peine ou non. Respectez cette peine et laissez venir.
Donc on peut avoir besoin de consolation pour quelque chose qui, alors objectivement, n'est pas grave. Une rupture avec quelqu'un qui disait dans le micro-trottoir de Clément, si ça fait 3 ans, c'est douloureux. Ouais. Si ça fait 3 mois, c'est pas grave. Non, on peut souffrir autant d'une séparation avec quelqu'un avec qui on n'est pas depuis longtemps, ou parce qu'on a perdu un bijou.
Bien sûr, voilà. Oui, ou parce qu'on était très amoureux. Même si on n'est pas resté longtemps, on avait l'impression d'avoir trouvé la personne définitive et parfaite, et puis elle s'en va. Mais on a ça aussi chez les propriétaires d'animaux. Parfois, les gens qui perdent un petit chat sont très malheureux, et ils n'osent pas en parler parce qu'ils se disent « mais c'est dérisoire par
honte,
rapport aux vraies, entre guillemets, adversités ». Et pourtant, on sait que cet animal de compagnie représentait tellement pour eux que c'est normal qu'il soit secoué, perturbé.
Clément ?
Est-ce que l'aide des amis, pour l'exemple du chagrin d'amour, est vraiment une aide, ou alors finalement est-ce que c'est pas un travail à faire seul et le temps de la guérison entre guillemets, on est le seul à l'avoir?
On a besoin des deux, on a besoin de savoir que les amis nous aiment et sont là, mais on a besoin aussi de faire une part de ce boulot nous-mêmes. C'est-à-dire, je ne peux pas me reposer totalement sur les autres, mais c'est vrai que dans la consolation, quand on étudie comment marche la consolation, la première étape c'est de sentir de l'amour et du soutien autour de soi. Et la deuxième étape, c'est de passer vers les autoconsolations. Se dire, voilà, il faut aussi que toi, tu fasses cet effort de te remettre en lien avec la vie, avec le monde, avec tes activités, puisque la consolation, c'est une remise en lien. Nos amis essaient de nous sortir de la peine et de nous remettre dans la direction de la vie.
Est-ce que ça peut marcher de se faire consoler par un inconnu ?
Eh bien, ça peut marcher parfois. On peut être très, très touché. Imaginez, je ne sais pas, vous tombez dans la rue, vous faites mal, vous êtes un peu vexé, un peu blessé, vos affaires sont partout. Alors, le pire, c'est évidemment, personne ne s'arrête, tout le monde vous regarde, quelques-uns ricanent.
On vous remarque dessus.
Ouais, et puis, quelqu'un s'arrête et gentiment vous aide à vous reprendre vos esprits, vous dit moi aussi, je suis tombé l'autre jour, c'est pas grave, ça arrive. Ben, ça va nous faire
ça
beaucoup
au cœur,
de bien sûr. C'est un pansement sur la peine, la consolation.
Alors, Christophe André, vous ne bougez pas, on a encore pas mal de précisions à vous demander sur les bienfaits de la consolation et comment user de ses pouvoirs, de ce remède dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, je rappelle qu'on vous donne la parole dans Bienfaits pour vous. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages ou encore vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. Alors à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On s'intéresse ce matin au pouvoir de la consolation, à ce que ce réconfort nous apporte quand on le reçoit ou même quand on le donne à quelqu'un. On va décortiquer tout cela avec vous, Christophe André. Je rappelle que vous êtes psychiatre et écrivain. Vous venez notamment de publier ce livre « Consolation » aux éditions L'Iconoclaste. Alors vous dites au tout début de votre livre que vous ne compreniez pas la consolation. Et là, vous écrivez un livre sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bien, je suis tombé malade et donc j'ai compris que c'était quelque chose d'important. En tant que médecin, moi, j'étais surtout préoccupé par le fait de soigner et de guérir. Et j'étais peut-être pas assez attentif à tout ce qui est à côté. Vous savez, quand on va voir un médecin, bien sûr, on attend qu'il soit bon ou qu'elle soit bonne si c'est une femme médecin, mais compétent, qu'il connaisse exactement les bons moyens de nous soigner. Mais on attend aussi que cette personne soit douce avec nous.
Empathique.
Empathique. Sente les moments où on a besoin d'être réconforté, d'être au fond de, voilà, d'avoir une sorte de câlin, de soutien. Et peut-être que ça, j'y étais pas assez attentif. Mais par contre, quand je suis tombé malade, j'ai eu un cancer et c'est ça. J'ai compris que le moindre sourire d'une infirmière, d'un médecin, la moindre parole de réconfort me faisait un bien immense, même si ça n'était pas du soin, du traitement. Mmh. Et tout à coup, là, je me suis mis à repenser à ce qu'avait été mon métier. J'avais consolé, mais sans le savoir, sans y être assez attentif, et à ce qu'était la vie des humains. On a tellement besoin les uns et les autres de recevoir régulièrement des consolations, hein, pas seulement face à des énormes chagrins comme peuvent l'être les deuils, mais aussi face à toutes les adversités du quotidien. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut que tu explores ça, que tu approfondisses ce sujet.
C'est vrai qu'on a tendance à penser que la consolation, finalement, c'est pour les petits. On avait cet exemple de ce petit garçon qui dit, moi je fais semblant de pleurer pour que ma petite sœur me fasse des câlins. Mais non, en fait, même adulte, on a encore ce besoin immense d'être consolé tout au long de sa vie, en fait.
Absolument. Les deux clichés de la consolation, c'est consoler un petit enfant qui s'est fait un petit bobo, ça va aller vite, ou bien essayer de consoler quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu un conjoint, un proche, un parent, etc. Et entre les deux, ben, on oublie la consolation alors qu'elle est partout. Elle est effectivement à chacun de nos échecs, à chacun de nos chagrins, à chacune de nos périodes où on est perdu, où on doute. Si nos amis, nos proches, nos collègues ne nous consolent pas, ne nous réconfortent pas. La consolation, c'est quoi ? C'est finalement lorsqu'on ne peut pas réparer le réel qui blesse, lorsqu'on ne peut pas donner de solution, on donne de l'affection, on donne de l'amour, on donne du soutien. Et ça permet à la personne, même si la situation lui échappe, le chagrin d'amour, ben la consolation ne fait pas revenir la personne qui est partie, mais ça donne à la personne qui a été quittée quelque chose qui lui redonne un peu confiance en elle, qui lui chuchote à l'oreille que ça vaut la peine de continuer, que l'avenir lui apportera sans doute des belles choses.
Et quelle différence faites-vous avec réconforter ? Est-ce qu'il y a une différence finalement ?
Oui, je fais une petite différence. Alors bon, c'est un peu la même chose, mais dans le réconfort est quelque chose de plus ponctuel. Voilà, on réconforte quelqu'un comme ça en passant, on lui donne un petit sourire, un petit coup de boost. Dans la consolation, c'est quelque chose de plus ambitieux. On comprend que si on n'est pas présent et de manière un peu durable, un peu répétée, la personne risque d'avoir un gros trou d'air, risque de déprimer, de se remettre en question, de se sentir seule au monde. Et donc là, on se donne pour ambition de la remettre un peu en état de marche, la remettre dans le mouvement de la vie.
Est-ce que vous pensez que depuis 2 ans, et finalement avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser tous ensemble, est-ce que vous pensez que le monde actuel, les gens ont besoin de plus de consolation que d'habitude ?
Et oui, parce que la consolation, c'est ce dont on a besoin quand on est un peu démuni face à la situation. Si finalement on avait trouvé tout de suite des médicaments, des vaccins instantanément efficaces face au coronavirus, on n'aurait pas besoin d'être consolé, on n'aurait pas eu tous ces ennuis. Mais on n'a pas trouvé ça, ou pas rapidement, ou pas facilement. Et donc, la consolation, une fois de plus, c'est quand le problème a eu lieu, je ne peux pas le régler immédiatement, donc j'ai besoin du soutien. On a besoin, les uns les autres, du soutien qu'on peut s'apporter
mutuellement.
Ensemble.
Ouais. L'homme est une espèce consolatrice, c'est ce que vous dites dans votre livre. Est-ce qu'il y a des espèces animales qui se consolent, ou c'est vraiment que l'apanage des humains ?
Non, alors ça c'est très intéressant. Il y a des animaux qui ne consolent pas leurs congénères. Par exemple, chez les petites espèces de singes, les macaques, macaques. Quand il y a deux macaques qui se battent, qui se collent une rouste, tout le monde s'écarte, regarde ailleurs, attend que ça passe pour ne pas prendre de mauvais coups. Et ensuite, on fait comme si rien ne s'était passé. Donc celui qui s'est fait rouster, celui qui a pris la dérouillée, eh bien on le laisse un peu, on l'abandonne à son sort.
Vous connaissez la rouste, Julien? Parce que moi, je suis du Sud aussi, je connais.
Ah oui, je connais.
Pardon, pardon.
La rouste, c'est quand on se prend une petite gifle, voilà, enfin, une petite correction. Quoi. Mais c'est vrai que pour être allé parfois au zoo, je voyais effectivement des singes se taper dessus et après, ils retournent à leurs activités. Voilà. Il n'y a pas de câlin. Alors...
Oui, mais celui qui a pris la rouste, ou la raclée, il est blessé, il est peiné. Alors qu'il y a d'autres espèces de singes dont nous faisons partie, hein, mais les chimpanzés, etc. Quand il y a eu un conflit entre deux individus, tout le monde va les consoler. On va consoler le vaincu, évidemment, qui est quand même blessé dans son corps et dans son esprit. C'est jamais bien de se faire frapper devant les autres. Mais ils vont aussi consoler le vainqueur, le calmer, l'apaiser. Et on s'est aperçu que les espèces qui disposaient de la consolation, les espèces animales, avaient un avantage adaptatif sur les autres. C'est-à-dire que ça évitait à ceux qui avaient de la peine, les membres du groupe qui avaient perdu un bébé, qui avaient perdu une bagarre, ou qui étaient blessés ou malades, d'être exclus et de mourir tout seul dans leur coin. Donc le groupe gardait la richesse de la variété de ces individus. Donc ça, c'est très passionnant. Et les humains sont une espèce consolatrice. Quand on voit nos semblables dans la peine, on a envie quand même de le réconforter, de le consoler.
Même une inconnue dans le métro qui pleurait, on a envie d'aller lui mettre la main sur l'épaule.
Ouais, vrai, ça nous touche et parfois on ne le fait pas parce qu'on est pudique ou on a peur que ça soit mal interprété, mais l'envie le plus souvent va naître en nous. On est équipé cérébralement pour consoler.
Et alors, ouais. Oui, si on veut consoler quelqu'un, si je veux consoler Mélanie de son week-end qui était formidable, qui était fatigant parce qu'elle a fêté son anniversaire, si je veux la consoler, c'est quoi les trois piliers? Je crois qu'il y a trois piliers. On commence par quoi?
Alors, la consolation, elle repose sur de l'attention qu'on donne à l'autre. Vous savez, aujourd'hui, consacrer du temps, de l'attention à autrui, c'est devenu un vrai cadeau. On passe notre temps à courir après tout un tas d'activités, à regarder nos écrans. S'arrêter et montrer à l'autre qu'on est vraiment là, avec lui, les yeux dans les yeux. On n'est pas en train de scroller sur nos réseaux sociaux. De quoi. Ça, c'est un premier point important. La deuxième chose, c'est l'affection. Lui exprimer qu'on a de l'affection pour cette personne, qu'on l'aime bien, ou qu'on l'adore, ou qu'on l'estime, ou qu'on l'admire, ce qu'on voudra. Et le troisième point, c'est l'action. Rien ne console mieux que de proposer de faire quelque chose, d'aller marcher, d'aller faire du shopping, d'aller au cinéma, d'aller faire du sport, de faire la cuisine, que sais-je encore. C'est-à-dire souvent, l'action a un effet consolateur parce qu'elle détourne notre attention de ce qui nous fait souffrir. Le problème, une fois de plus, on parlait tout à l'heure des chagrins d'amour. Quand j'ai un chagrin d'amour, ça m'obsède. J'ai plus que ça en tête et je n'arrive pas à voir le reste de ma vie, mes amis, tout ce qu'il y a de beau dans ma vie. Et donc, proposer aux gens qu'on veut consoler de faire quelque chose avec eux, ça leur évite de se rétracter, de se replier sur leur peine.
Alors, on a compris, l'être humain est un être consolateur par nature. Et donc, consoler, ça nous vient facilement. On a envie de consoler quelqu'un qui est triste à côté de nous. Par contre, parfois, c'est très difficile de se faire consoler. Il y a des gens chez qui il y a des réactions quasi épidermiques. C'est foutez-moi la paix, je vais me débrouiller tout seul. Pourquoi cette difficulté assez fréquente quand même à se faire consoler quand on n'est plus un enfant, en tout cas?
Oui, c'est très fréquent. Ben, d'abord parce que pour accepter la consolation, il faut accepter d'être perdant, d'être blessé, d'être en situation d'impuissance. Et personne n'aime reconnaître sa faiblesse. Il faut accepter d'être faible, accepter d'avoir besoin de l'affection des autres. Donc ça, c'est un premier point. Parfois, on n'a pas envie que les autres nous voient fragilisés, nous voient pleurer, nous voient blessés. Après, il y a certaines personnes, effectivement, qui ont besoin qu'on leur foute la paix pour digérer l'événement. C'est important pour elles de savoir qu'on les aime et qu'on est prêt à les aider, à les consoler, mais il faut qu'on se tienne loin, le temps qu'elles reprennent un petit peu l'ascendant sur elles et que de nouveau, elles acceptent qu'on leur fasse des câlins, des bisous. Il y a aussi ce profil de personnes qui est relativement fréquent.
Alors Christophe André, vous ne bougez pas, on a encore pas mal de précisions à vous demander sur les bienfaits de la consolation et comment user de ses pouvoirs et de ce remède dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, je vous le rappelle, on vous donne la parole dans Bienfaits pour vous. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages ou encore vos questions au 3921, notre répondeur, ou encore sur le compte Instagram de l'émission. Alors à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On s'intéresse ce matin au pouvoir de la consolation, à ce que ce réconfort nous apporte quand on le reçoit ou même quand on le donne à quelqu'un. On va décortiquer tout cela avec vous. Christophe André, je rappelle que vous êtes psychiatre et écrivain. Vous venez de publier ce livre Consolation aux éditions Iconoclaste. Alors la consolation, vous dites qu'elle peut venir toute seule, parfois hein, sans l'aide des autres. On peut trouver de la consolation dans ce qu'on voit peut-être autour de nous. Comment ça se passe dans notre esprit, dans ces moments-là ?
Alors, la condition pour que le monde nous console, pour que la vie nous console, c'est justement de regarder en dehors de nous-mêmes. Le problème de la peine, du chagrin, de la souffrance, c'est que la souffrance, c'est un aimant attentionnel. Si j'ai un chagrin d'amour, si j'ai mal aux dents, si j'ai un échec personnel, professionnel, sentimental, mon attention est capturé par ça, je ressasse, je rumine, j'y repense tout le temps et je ne verrai pas que le ciel est bleu, qu'il y a des choses touchantes autour de moi. Et donc, l'idée, c'est de se désincarcérer de sa souffrance et de faire cet effort, c'est un peu un effort quand même, de relever la tête, de regarder autour de moi, d'essayer de me rendre réceptif à toutes ces petites micro-consolations du quotidien.
Et vous dites dans votre livre que la nature est une source de consolation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi concrètement ?
Alors effectivement, quand on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont réconfortées, consolées par une balade en forêt, en montagne, en bord de mer, enfin l'endroit naturel qui est à leur disposition, sur la région où ils habitent. Et effectivement, la nature a quelque chose de profondément apaisant parce qu'elle nous reconnecte à quelque chose d'archaïque qu'on appelle la biophilie. Tous les êtres vivants et notamment les humains, sont naturellement réconfortés par la nature parce que c'est de là que nous venons, c'est là que résident toutes les ressources hein, qui ont permis à notre espèce de survivre au travers des millénaires et des dizaines et des centaines de millénaires. Et donc c'est comme une sorte de tranquillisant bio. Et vous savez, c'est pour ça, on a beaucoup d'études montrant par exemple que si vous mettez des fonds d'écran représentant des images naturelles ou si la chambre de votre hôpital, quand vous êtes hospitalisé, donne sur un parc, eh bien ça vous fait beaucoup plus de bien que si vous êtes avec une image de parking, hein, dans la chambre d'hôpital, c'est rare que les gens mettent des parkings sur leur fond d'écran ou des spectacles non naturels. La nature est guérisseuse et consolatrice parce que c'est notre biotope, c'est de là qu'on vient et c'est là qu'on retournera tôt ou tard.
Dans votre livre, il y a une liste de nombreuses autres choses qui réconfortent. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Je pense à nos auditeurs qui peuvent être tristes et qui ont besoin d'avoir justement des idées de ce qui peut nous consoler.
Oui, c'est ce que j'appelle le petit vrac consolatoire. Alors, je sais pas, vrac, c'est pas toulousain, ça.
Non,
c'est
non, tout le monde ça comprend. C'est bon.
C'est pas comme c'est pas comme la rouste tout à l'heure. Bon. Ben oui. Alors c'est chacun a sa petite malle au trésor. Pour beaucoup de gens, c'est écouter de la musique. Et d'ailleurs, c'est pas toujours les musiques gaies qui consolent. Parfois, c'est des musiques tristes parce que on se sent en communion avec l'artiste qui a écrit cette chanson triste, cette musique triste. Il y a regarder un chien courir, regarder des enfants jouer. Il y a regarder le ciel. On a des très belles études qui montrent que relever la tête et regarder les nuages passer a un effet apaisant et consolateur. Alors, c'est des tout petits effets, hein. C'est pas tout à coup, voilà, vous n'allez pas vous sentir transformé du jour au lendemain, mais c'est des tout petits efforts qui vont vous faire du bien. La lecture également.
Et bien manger, non ?
Pardon ?
Manger. Alors. Parce que moi, j'aime bien manger.
Alors, manger, ça fait partie de toutes les activités qui nous font du bien si on les fait en pleine conscience. Oui, ouais. C'est-à-dire, si je mange en pensant à mon chagrin, je vais trop me remplir.
Moi, je trouve ça réconfortant, mais pas forcément consolateur,
voilà.
Non ?
Ouais. Par contre, effectivement, faire ma recette préférée, la faire en m'immergeant bien dans chacun de mes gestes, dans les parfums, les odeurs, les saveurs, ça va avoir un effet, effectivement, d'abord réconfortant et peut-être même consolateur, parce que ça me remet en lien avec quelque chose que j'aime et qui me fait du bien.
Vous voyez, vous devriez vous y mettre à la cuisine, Julien, finalement. On a une question de Jules hein, sur Facebook qui nous dit « Quand je me sens mal, j'écoute la chanteuse Adèle et ça me fait me sentir mieux. Est-ce qu'on peut dire qu'elle me console alors que je ne la connais même pas ?»
Eh oui, elle vous console, Jules, d'abord parce que vous êtes, vu votre prénom, vous êtes certainement jeune et 70% des personnes de moins de 35-40 ans se tournent préférentiellement vers la musique pour se consoler. Et un chanteur ou une chanteuse peut nous consoler simplement parce qu'on sent une fraternité entre humains. J'ai pas besoin de connaître quelqu'un pour être touché par ce qu'il dit, par ce qu'il ressent, parce que les humains se ressemblent beaucoup dans leur manière de souffrir. Nous souffrons tous un petit peu des mêmes causes et nous avons tous un petit peu les mêmes choses qui nous réconfortent ou qui nous font du bien.
On a une autre question de Clara sur Twitter. Elle vous demande, est-ce que les animaux peuvent nous consoler? Elle dit, j'ai l'impression que mon chat vient me réconforter quand je suis triste ou que je ne suis pas bien. Ou alors, est-ce que c'est juste une impression?
Non, c'est pas une impression. Il y a vraiment, en tout cas, je sais pas si les animaux, c'est une grande source de consolation. Ils font du bien à beaucoup de personnes, même dans des situations extrêmes. Hein. Même quand je suis extrêmement malade, voir mon chien, mon chat qui respire à mes côtés, qui pose sa tête sur mes genoux, ça va me faire un bien fou. Et un bien biologique, d'ailleurs. On montre que ça a un impact sur ma santé, ça abaisse, ça ralentit un petit peu mes pulsations cardiaques, ça régularise ma respiration, ça abaisse certaines variables biologiques d'inflammation. Alors, quant à savoir si les animaux sentent mon chagrin et se rapprochent de moi pour cela, les chiens, oui, on en est sûr. Les chats, probablement, ils sont sans doute capables de percevoir chez un maître qu'ils connaissent bien que quelque chose ne se passe pas comme d'habitude, et sans doute capables aussi d'apporter un peu de réconfort. Mais chez eux, c'est un peu moins prévisible, évidemment, que le chien.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont de piètres consolateurs, qui ne savent vraiment pas consoler les autres? Je ne sais pas, parce que peut-être ils manquent d'empathie ou juste parce qu'ils ne savent pas y faire.
Ouais,
est-ce que vous avez des petits conseils pour eux, justement?
Ouais, moi, j'ai longtemps été un cancre de la consolation. C'est-à-dire quand
pour un psy, c'est étonnant.
Oui. J'étais meilleur avec mes patients qu'avec mes enfants parce que je voulais régler leurs problèmes. Ouais. Quand je voyais quelqu'un, un proche souffrir, je me focalisais sur la recherche de solutions. Mmh. Et parfois, il n'y en avait pas, ou pas pour le moment, au lieu de faire un gros câlin en disant « Écoute, oui, c'est vrai, c'est très ennuyeux, mais je t'aime beaucoup. » Et c'est aussi simple que ça, mais c'est vrai qu'il y a des cancres. Alors, c'est pas par manque d'empathie. On est tous capables d'empathie. C'est très rare, très rare. Ça existe. Il y a des grands psychopathes qui sont insensibles à la souffrance
c'est
d'autrui.
Ouais.
Rarissime. 99% des humains sont touchés par la souffrance d'autrui, mais parfois, ils sont bloqués aussi parce que ça les panique. Ça leur fait du mal à eux aussi. Et ils ont peur qu'en essayant de consoler, ils aggravent encore la situation. Et donc, ils sont figés. Et ils aimeraient faire des câlins, mais ils ne peuvent pas les faire autrement que dans leur tête. Voilà. Mais donc, ça s'apprend. Il faut prendre le risque d'aller vers la personne et prendre le risque de se faire jeter. C'est-à-dire, souvent, nos tentatives de consolation se font repousser parce que les gens ne sont pas prêts, mais c'est quand même un message qu'on a adressé. Je t'aime, même si je m'y prends mal, et même si on m'a jeté, j'aurais fait du bien à l'autre.
Très bien. Merci beaucoup, Christophe André, de nous avoir accompagné ce matin et surtout de nous avoir livré cet éclairage sur les bienfaits de la consolation, qu'on la reçoive ou qu'on la donne. Elle nous est précieuse tout au long de notre vie. On l'a compris. Merci.
Oui, merci à vous. On va à présent changer totalement de sujet et s'intéresser de plus près à nos dents et notamment à une mode qui inquiète vraiment les professionnels de santé. De plus en plus de jeunes se font limer les dents comme des dents de requin pour se mettre des facettes. On voit des tas de vidéos, notamment sur le réseau social TikTok. On va faire le point. C'est notre dossier santé bien-être du jour.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui. C'est vous, docteur Kevin, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec plaisir, vous êtes chirurgien-dentiste dans le Sud-Ouest et sur votre compte TikTok, vous êtes suivi par plus de 400 000 personnes. Alors justement, c'est via ce réseau social que vous avez alerté sur cette tendance dangereuse. Hein. De plus en plus de jeunes influenceurs s'érigent comme modèles avec leurs dents de requin, puis leurs dents soi-disant parfaites, hein, avec des facettes. Enfin, expliquez-nous concrètement quel est ce phénomène.
Alors, en effet, c'est vrai que je suis très présent sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Et j'ai remarqué dernièrement qu'il y avait des jeunes influenceurs qui allaient à l'étranger, notamment en Turquie, se faire poser ce qu'ils considèrent comme des facettes, ce qu'ils prétendent être comme des facettes, sauf que ce n'est pas des facettes, ce sont des couronnes dentaires, et c'est bien là le problème. Alors vous allez me dire pourquoi, quelle est la différence?
C'est quoi la différence déjà entre une facette et une couronne?
Alors en fait, une facette dentaire, on va limer la partie vestibulaire, la partie antérieure, la partie visible de la dent simplement, pour y apposer une petite pellicule qu'on appelle une facette sur cette partie et pour rendre plus esthétique le sourire, un meilleur alignement. C'est concrètement simplement esthétique. Pour ce qui est des couronnes dentaires, là c'est totalement différent. On va limer toute la circonférence de la dent, donc toute la dent, en dents de requin, justement, comme vous parlez.
C'est effrayant, hein, je vous invite à aller voir les vidéos.
Quoi,
c'est
des dents pointues, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
C'est
en
moche.
Fait, on est obligé de limer toutes les dents pour faire une couronne dentaire. Alors attention, ça dépend des cas. C'est quelque chose qui protège. Outre l'aspect esthétique, la première fonction d'une couronne dentaire, c'est la protection. Genre, dans 99% du temps, c'est sur des dents qui sont mal en point de base, souvent dévitalisés, que j'ai dévitalisés. Alors, pourquoi ? Pour une grosse carie, par exemple, on dévitalise et on met une couronne dentaire pour protéger.
Alors, ce sont surtout des influenceurs américains qui font ces vidéos, mais est-ce que cette tendance, donc très risquée, on va continuer de la détailler, mais est-ce que ça a déjà débarqué en France ?
Alors, oui, ça a débarqué. C'est vrai que beaucoup de jeunes nous demandent de faire des facettes dentaires. Bon, ils se trouvent un peu bloqués parce que le prix est très élevé en France. Et c'est là où ils vont à l'étranger. Et ce problème, c'est qu'à l'étranger, et surtout notamment en Turquie, ils font ces couronnes dentaires et ils taillent des dents saines. Parce que là, on taille des dents saines et pas des dents dévitalisées ou mal en point de base. Mmh. Et c'est là que c'est très dangereux parce que plus on taille la dent, plus on se rapproche du nerf de la dent.
Et puis la dent, ça ne repousse pas, on est d'accord, on n'a pas trouvé la solution encore.
Exactement.
Mais dites-moi, vous avez vraiment des demandes dans votre cabinet, des jeunes influencés justement par les réseaux sociaux dont on parle, qui veulent absolument ces facettes ou pas ?
Oui, alors le problème, c'est que on vit dans un monde où le fake, il est plus beau que le naturel, où tout le monde veut des dents super alignées, plus blancs que blancs. Et c'est ça le vrai problème. Quoi.
Mais excusez-moi, je visualise une dent de requin, mais c'est moche, non ?
Oui, mais c'est pour être remplacé, ouais. C'est provisoire, voilà.
Mais ils s'affichent quand même avec leur dent de requin à un moment donné sur les réseaux sociaux.
D'accord, je viens de comprendre, c'est provisoire, mais
c'est provisoire, c'est avant d'installer la couronne. La couronne quoi.
D'accord.
Et on est d'accord, justement, ce ne sont pas des facettes qui se font poser, ils croient à tort que ce sont des facettes, ce sont des couronnes, ça vous l'avez bien expliqué.
C'est une grande différence quand même.
Mais du coup,
c'est juste la pellicule, quoi.
C'est ça, ils ne savent même pas qu'ils ont des couronnes, en fait, qui sont censées être des choses pour des malades, des dents malades, en fait, c'est ça.
C'est ça. Et le gros risque, en fait...
J'allais vous dire, à long terme, c'est quoi le problème ?
Le gros risque, c'est que très certainement, on devra dévitaliser beaucoup de dents à l'avenir, parce que ça sensibilise quand même beaucoup la dent. On est très proche, du coup, du nerf, de la dentine, on est sur la dentine, donc... Voilà,
la dentine, c'est une des couches de la dent, c'est ça,
la dent se compose de plusieurs couches, l'émail, la dentine, et après on se rapproche du nerf de la dent, la pulpe.
Et donc, si on s'en rapproche, il se passe quoi ? On perd ses dents ?
D'abord, on dévitalise la dent si c'est trop sensible, et après, après c'est un autre problème. On a vu un cas que j'ai déjà vu malheureusement, où il faut extraire toutes les dents.
Dans votre cabinet, c'est déjà arrivé ?
Alors, c'est déjà arrivé une fois, c'est très rare. Après, c'est quelqu'un aussi qui considérait que avoir des couronnes dentaires dispensées du brossage de dents.
Oui, ça va très
loin.
Donc
forcément, le problème, c'est qu'il faut encore plus bien avoir une bonne hygiène dentaire quand on a des prothèses. Pourquoi ? Parce que si on a des bactéries, des restes alimentaires qui s'infiltrent sous ces couronnes, ça attaque directement... les très racines, bien. Etc.
Bon, docteur Kevin, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous, car justement, on va parler facettes, mais vraies facettes. Quelles sont les bonnes indications pour s'en faire poser ? Comment cette procédure se déroule ? Le résultat est-il naturel et surtout durable dans le temps ? On va tout vous expliquer. On prend soin de nos dents, on peaufine notre sourire. Plus blanc que le blanc, on va voir. En tout cas, tout ça, c'est sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour consacré à nos dents, essentiellement d'un point de vue esthétique. Aujourd'hui, on vous dit tout sur les facettes dentaires. On fait le point avec le docteur Kevin, chirurgien dentiste dans le Sud-Ouest. Sur votre compte TikTok, vous êtes suivi par plus de 400 000 personnes. Alors justement, on a remis les choses au clair concernant les soi-disant facettes de TikTok. C'est les influenceurs qui mettent des vidéos de leurs dents de requin, leurs dents toutes limées pour installer ce qui ne sont pas des facettes mais des couronnes, ça on l'a expliqué tout à l'heure. Expliquez-nous justement, alors comment ça se fait en France, parce qu'on est d'accord, aucun dentiste ne pourrait faire ça en France, de toute façon, ce qu'on a vu dans ces vidéos, c'est souvent dans des cliniques en Turquie ou des choses comme ça.
Bien sûr, alors on n'a pas là du tout la même éthique en France. Pour nous, on considère ça comme un peu de la mutilation, ce qu'ils font quand même.
Aller limer des dents saines,
limer des dents saines, ça n'a vraiment aucun intérêt et vraiment c'est pas du tout adapté à ce cas-là. En fait.
Et donc des facettes dentaires, c'est quoi pour le coup de bonnes facettes dentaires qu'on poserait en France ?
De bonnes facettes dentaires, il faut étudier déjà le cas par cas. D'abord, on va avoir un rendez-vous de consultation où on va prendre des photographies, étudier la demande du patient. Souvent, la demande du patient, elle est totalement esthétique.
C'est comme un faux ongle pour les dents, c'est ça ?
C'est un faux ongle pour les dents, exactement.
Mais c'est juste collé ? C'est quoi ?
Alors, c'est collé, il y a un protocole de collage assez strict. Et voilà.
N'essayez pas de vous poser des faux ongles sur les dents, Julien.
Mais c'est quoi, c'est de la colle.
C'est quand même l'image, l'image des dents, enfin juste la partie vestibulaire antérieure des dents.
Mais c'est de la bonne colle, je veux dire, ça tient.
Ouais. Oui, c'est de la
vous
n'allez
pas perdre vos faux ongles dans.
Non, mais parce que je crois qu'il existe plusieurs sortes de facettes. Celles qu'on voit le plus, elles sont en céramique, c'est
exactement,
bien ça.
Ouais.
Il y en a d'autres.
Il y a plusieurs types de facettes. Il y a des facettes en composite, en céramique, en IMAX. Voilà, ça va dépendre aussi du cas. Mm-hmm. Après, forcément, ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, c'est, ou même à la télé, c'est les facettes en porcelaine, en céramique. Hein.
Ah, voilà. D'accord. Vous avez les dents très blanches, ce sont des vraies dents ou ce
oui,
sont des facettes?
C'est des vraies dents.
Il n'y a pas de facettes? Vous n'avez pas mis de facettes?
Non.
Et de boule à facettes non plus?
Non,
dans quel cas on est amené à poser des facettes? Je veux dire, ça s'adresse à quel type de client?
Alors, des patients qui ont un complexe en rapport avec leur sourire, une blancheur relative, un alignement aussi relatif, peut-être souvent un diastème, un espace interincisif peu marqué, souvent c'est ça aussi.
C'est joli, au contraire, moi je trouve que c'est les dents du bonheur,
voilà.
Non c'est
ben, ce moi que vous... je trouve aussi que ça donne le charme, mais
d'accord.
Voilà.
Et c'est, on est d'accord, les facettes c'est uniquement à visée esthétique, c'est-à-dire qu'on ne pose pas des facettes pour des raisons médicales.
Non.
Non, c'est que de l'esthétique. Alors, on peut en mettre sur toutes les dents de ces faux ongles dentaires qui sont en céramique ou une autre matière, ou c'est juste les dents de devant en réalité?
Alors, c'est juste les dents de devant, ça va au maximum jusqu'au prémolaire, jusqu'aux dents visibles.
Donc on fait combien de dents en tout?
Alors,
4 et 4, 8,
ouais,
même
un
peu plus.
20
ouais.
dents maximum.
D'accord.
Aucun intérêt d'en poser sur des molaires, c'est une dent qui ne se voit pas. Donc.
D'accord. Et j'imagine qu'avant de poser des facettes, vous regardez l'état des dents des patients. Qu'est-ce que vous
Bien
vérifiez
sûr.
Principalement?
Alors, qu'il n'y ait, que tout soit sain, qu'il n'y ait pas de caries, qu'il y ait une bonne hygiène, pas de pathologie comme une parodontite. Une parodontite, c'est une atteinte de tous les tissus qui englobent la dent, à savoir l'os, la gencive.
Mais ça serait quoi le risque de poser une facette sur une carie, par exemple?
Que la carie se développe en dessous. Et ça serait très, très problématique. Parce que
ça va cacher la misère. Voilà. Et le problème, c'est que ça peut faire un abcès, j'imagine, quelque
Exactement,
chose de très grave.
Ça peut du coup, toucher le nerf, nécroser la dent, un abcès, comme vous avez dit.
Les soins dentaires d'après, ils seront plus douloureux, je pense.
Oui, ce sera pas pareil du tout.
Et vous conseillez un détartrage avant de se faire poser des facettes?
Alors, je conseille un détartrage tous les ans, voire tous les 6 mois pour.
Je l'ai fait tous les 3 mois, je crois.
Ça craint ou pas tous les 3 mois?
Non, ça ne craint pas. Après, la sécurité sociale rembourse tous les 6 mois, donc c'est qu'il y a un intérêt quand même.
J'en suis de ma poche. D'accord. Donc, si jamais j'avais, je ne sais pas, vous avez fait ce check-up, vous avez vérifié l'état, la santé de mes dents, si effectivement vous trouvez une parodontite, ben on va la soigner, on pourra retarder, enfin ça n'empêchera pas de poser plus tard.
Tout ça, bien sûr.
D'accord. Il ne faut donc pas poser sur une dent cariée, pas sur une dent qui a un problème, le détartrage, on l'a fait avant.
Mais on n'a pas demandé combien ça coûte, Mélanie.
Bon, on y vient, mais si on va attendre un peu de juste expliquer comment ça se pose déjà.
Vous voulez.
Voilà,
mais je suis impatiente de savoir combien ça coûte une dent. Comme
vous avez des très belles dents, Julia, c'est pas la peine. Comment ça se pose alors, la colle, enfin, combien de temps ça met? Comment vous procédez?
Ça dépend des praticiens. Moi, c'est vrai que j'en pose très peu. Moi, je suis plus dans le soin, comme vous avez dit, dévitalisation, couronne, chirurgie. Comment ça se passe? 3 séances minimum.
Pas en une fois alors.
Non, c'est pas du tout en une fois. Ouais. Une séance de consultation où on voit la demande du patient, on photographie, on donne tout ça au prothésiste qui va nous faire un modèle d'essai. Qu'on appelle mock-up, pour voir si le patient est satisfait. Si le patient est satisfait, la prochaine séance, on pourra limer les dents, juste la partie vestibulaire, pour pouvoir...
Rappelez-nous ce que c'est la partie vestibulaire
de la
dent.
Vestibulaire, c'est la partie antérieure, la partie visible de la dent.
D'accord, mais là, c'est embêtant quand même, non? Parce que si je veux enlever mes facettes un jour, j'aurai les dents un peu limées quand même.
Ouais,
donc un peu abîmées, a priori.
C'est définitif. Ouais.
Donc, c'est pas un acte anodin,
non,
même les facettes.
Non, ce n'est pas un acte anodin. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une vraie consultation avant.
Et quand je sors du cabinet avec mes petites facettes là, est-ce que je peux manger tout de suite après? Est-ce que je peux croquer dans une pomme?
Alors,
ou il faut faire attention.
Vous pouvez manger, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faudra faire attention, c'est l'hygiène bucco-dentaire, des contrôles réguliers. Et bien sûr, dans cette séance de consultation, il faut voir si vous n'avez pas des parafonctions, comme
c'est
du bruxisme.
Ah, oui. Le bruxisme, c'est quand
on grince des dents.
C'est marrant parce qu'on avait une question de Bernard, justement, dans la Vienne, sur Facebook. Il dit, est-ce que je peux me faire poser des facettes alors que je grince des dents, je fais du bruxisme? C'est vrai, c'est pas conseillé, a priori.
Alors, c'est du cas par cas, mais pour les bruxismes sévères, c'est quand même une contre-indication majeure. Pour les bruxomanes, on pourra toujours faire tenter en mettant une gouttière de protection la nuit avant de faire les facettes, le temps qu'il s'y habitue. Et par la suite, après la pose des facettes, refaire une gouttière thermoformée à la forme des dents pour qu'il y ait cet aspect protecteur.
Alors, je reviens sur la tendance des soi-disant facettes sur TikTok, car ces jeunes influenceurs pensent qu'il ne faut plus brosser les dents, c'est bien ça, avec des facettes.
Ouais,
bon, ils ont tort.
Alors oui, c'est vraiment, comme je disais, c'est très très important l'hygiène bucco-dentaire, même si on a des prothèses dans la bouche, et surtout si on a des prothèses dans la bouche. On peut avoir des bactéries, des restes alimentaires.
Ah bah oui, bien sûr.
Voilà.
Mais est-ce que, par exemple, si on se fait poser des facettes, on peut arrêter au moins de se faire détartrer ou...
Non, pas du tout. Non.
Oui, parce qu'il peut y avoir du tartre à l'intérieur. Parce que posé que sur la surface des dents devant.
Oui,
derrière, j'ai mes vraies dents quand même,
exactement.
C'est ça, d'accord. Et est-ce que si on fume, si on boit du café, est-ce que ça va altérer la blancheur de la facette?
Ça dépend le matériau de la facette. Si c'est en porcelaine, théoriquement, ça ne va pas altérer la couleur.
D'accord.
Après, encore une fois.
Vaut mieux arrêter de fumer quand même, c'est mieux.
De toute façon,
Vous les dentistes, vous aimez pas trop le café, la théine, tout ça, vous aimez pas. Hein.
Ça colore, et après le tabac, de toute façon, ça fait des gros dégâts, dehors de la santé en général, sur les dents.
Mais dites-moi, ces facettes, ça dure pas à vie? Est-ce que ça peut se décoller? Qu'est-ce que vous faites?
Ça ne dure pas à vie. On considère, alors ça dépend encore une fois du matériau, mais des facettes bien posées en porcelaine, ça peut mettre 10 à 20 ans.
Ah,
ça dépend aussi de la technique de collage, ça dépend aussi de sur quoi on pose la facette, si c'est plus sur l'émail ou sur la dentine. Donc ça va dépendre du cas par cas aussi, mais ça va conditionner la durabilité de ces prothèses.
Bon, justement, la Julie, elle ne tient plus, elle veut savoir combien ça coûte.
Oui,
en moyenne, hein, parce que bien sûr, j'imagine que Paris ou la province, c'est pas forcément le même prix.
Pour tous les soins esthétiques, c'est en hors nomenclature, donc ça dépend des dentistes. Tous les soins à visée vitale, tout ça, c'est remboursé. Enfin, il y a toujours une prise en charge, tandis que là, c'est en dehors de la sécurité sociale.
Il n'y a pas du tout de prise en charge.
Donc ça dépend des dentistes. Ouais. Après, on a un prix moyen quand même, de 500 à 550 euros par dent.
Ah, ouh là là,
Le sourire, ça fait combien le sourire?
Ah ben, ça dépend combien c'est nécessaire.
Vous avez un grand sourire, il faut faire pas mal de dents, je pense.
Si c'est 20 dents, vous pouvez multiplier.
Oh, voilà. Ça fait 10 000 euros le sourire?
C'est ça.
Ouais, c'est quand même
donc
très,
c'est
très
quand
cher.
Même quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ces jeunes influenceurs qui partent à l'étranger. Sauf qu'à l'étranger, le service après-vente, c'est quand même moi. Donc,
c'est ça, exactement.
Pas ça.
Ouais. Et on est d'accord, il faut les brosser aussi deux fois par jour. Enfin, aujourd'hui, c'est des recommandations.
C'est
avant, on disait trois fois, maintenant, on dit deux fois.
Les recommandations, c'est deux fois par jour.
Un dentifrice classique, une brosse à dents classique
Alors, un dentifrice qui contient du fluor, environ 1450 ppm de fluor, c'est indiqué sur le dentifrice. C'est la moyenne, c'est très important le fluor parce que c'est un protecteur de caries. Matin et soir, en ne surtout pas oubliant les espaces interdentaires, brossettes, fil dentaire, jets dentaires.
Parfait.
Voilà, au moins une fois par jour.
Merci beaucoup, docteur Kevin, pour cette mise au point qui s'imposait avec toutes ces bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on a bien mis en garde les plus jeunes, surtout, et donné les bonnes infos médicales et sérieuses pour ceux qui seraient tentés, hein, comme Julia, peut-être,
par les facettes. Moi, tout me tente. Hein. j'ai pris l'accent. Merci, docteur. Maintenant, nous allons passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique de Sophie Braffman, une chronique mode aujourd'hui 100% masculine. Elle mettra un coup de projecteur sur les nouveautés dans le secteur de la lingerie pour ces messieurs. Ensuite, on va écouter Soizic Belin qui va nous présenter un réseau social d'un nouveau genre. Il a vu le jour il y a quelques mois, ça s'appelle Kiligi, et à l'inverse de Twitter ou Instagram par exemple, et bien là il s'agit d'un réseau social bienveillant, conçu pour prendre soin de soi et des autres, on verra cela. Et enfin, on va terminer avec l'éclairage beauté de Maud Ravier. Aujourd'hui, elle nous invite à chouchouter une partie qu'on néglige souvent l'hiver, les pieds. Que du bon, du doux, des ondes positives, et c'est normal, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on vous cocoonne tous les matins à partir de 11h et jusqu'à midi et demi. Et à présent, on va lancer comme tous les jours à midi notre tour de table des tendances, ces bons plans, ces modes du moment qu'on décrypte pour vous. Et on va commencer avec vous, Sophie Braffman, bonjour.
Bonjour.
Une chronique mode aujourd'hui 100% masculine, c'est bien ça?
Oui.
On va habiller ou déshabiller d'ailleurs ces messieurs pour l'hiver?
On va les déshabiller, là. Ah. En plus il y a une assemblée féminine, c'est pour ça que je vous regarde. Mesdames, des petites idées pour vous parce que demain commence la semaine de l'homme. Je vais vous raconter ça tout de suite.
Bon, ensuite ce sera à vous de jouer, Soizic Belin, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous présenter Kiligi. En quelques mots, Kiligi, c'est quoi? C'est un réseau social, c'est une application qui vous mettra du baume au cœur, en tout cas à nos jeunes.
Ah, c'est bien ça.
Et on va terminer ce tour de table aujourd'hui avec vous, Maud Ravier, bonjour.
Bonjour.
Alors grâce à vous, chaque semaine on a des tas de conseils, d'astuces pour se faire beau et belle au quotidien. Qu'est-ce que vous nous proposez en ce lundi matin ?
Eh bien aujourd'hui, on va parler de nos pieds, parce qu'ils ne sont pas cachés. C'est pas parce qu'ils sont cachés, pardon, qu'on doit les bouder,
mais
évidemment.
Ça, c'est sûr.
Ils sont abîmés l'hiver.
Oui, on a parlé des dents, on va parler des pieds, on prend soin de vous de partout. On vous retrouve, Maud, dans quelques minutes, mais tout de suite, on va parler donc comment chouchouter nos pieds, mais aussi Sophie Braffman.
De mode.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Sophie Braffman, c'est l'hiver, alors j'ai cru comprendre que vous aviez les pieds secs, mais c'est pas de ça qu'on va parler.
Oui. J'attends avec impatience la chronique de
Maud. On se gèle dehors, mais alors pour nous réchauffer en quelque sorte, vous avez décidé de nous parler sous-vêtements aujourd'hui, mais pas de petites culottes, pas du tout.
Non.
Ce sont des hommes qu'on va parler, c'est
exactement
à vous.
Exactement. Alors déjà, pour situer un peu le contexte, demain démarrera la semaine de l'homme. Mercredi, Ami, Acne vont défiler. Jeudi, Louis Vuitton, Yoji Yamamoto. Et vendredi, Courage et Dior. Donc autant vous dire, un très joli programme. Alors aujourd'hui, il est vrai que souvent, en période de défilé, les genres se mélangent. L'homme et la femme défilent en même temps, on a beaucoup parlé, et ici d'ailleurs aussi, de non-binaire, gender fluide, androgyne. Et du coup, dans cette période d'ouverture et de transition, je me suis dit que l'homme était une femme comme les autres et j'ai voulu m'intéresser au plus près du corps des hommes. J'ai nommé la lingerie masculine un secteur en évolution, en révolution quasiment. On écoute Vanessa Kos, experte en mode et design, qui nous en parle.
La lingerie masculine, c'est vrai qu'elle a toujours été plus ou moins oubliée dans le domaine global du secteur, avec une offre qui est toujours restée hyper classique et des formes aussi très classiques. Aujourd'hui, on ose enfin sortir du bleu marine, du gris, du noir et du blanc pour proposer des imprimés aujourd'hui qui sont et dans le mini motif et dans des plus gros motifs, et surtout dans l'utilisation de mots, de slogans. Et surtout, on est enfin aussi dans des matières qui changent, de la même façon que ça évolue chez la femme. C'est en train d'évoluer chez eux.
Donc côté couleur, l'audace est désormais permise chez les hommes avec du rose fluo, de l'imprimé floral ou une inscription comme « Je t'aime mon amour ». Mais qu'en est-il des formes ?
On est en train vraiment de travailler à nouveau le ruban qui soit beaucoup plus en adéquation avec le ruban de la ceinture, avec le caleçon. Donc on va avoir beaucoup plus de nouveaux Marcel qui se redessinent et qui s'inspirent de la brassière des femmes. On a du coup des caleçons dont la forme change, beaucoup plus court au niveau du caleçon qui devient plus shorty.
Oh là là, ça beaucoup promet hein.
Plus court, ouais. Donc je fais un petit récap. En 2022 pour les hommes, le slip est revalorisé, le caleçon se fait plus court, place au boxeur, les mactières sont innovantes comme de la maille 3D, pas un tissage classique, une autre technique d'entremêlage de fil amène plus de souplesse. On couvre son buste avec un débardeur seconde peau, un peu proche de notre brassière. Et enfin, des slips bien pensés dans leur forme, notamment et audacieux en imprimé.
Bon, mais génial, on peut se procurer tout ça où, Sophie, vite, on
alors,
va savoir.
Je vais vous parler bien évidemment des slips bien pensés, les filles, c'est cela qui vous intéresse.
Bah oui, évidemment.
Alors, on commence avec la marque Homme qui propose des
H-O-M,
boxers H-O-M,
simplement.
Exactement. Ouais. Je ferai des petits posts aussi sur Insta pour relayer tout ça. Avec des boxers courts à Aruba, on est sur du motif très tropical, attention, à 19€. Et des slips micro-training en orange ou bleu fluo. Alors, effectivement, ça donne tout un style à partir de 13€.
Ça doit être agréable à porter.
Oui, et c'est agréable à toucher également, Julia. Donc, on a de la longueur raccourcie, des transparences, voire presque de la dentelle et enfin, des motifs. Ensuite, le tricot de peau ou Marcel, vous le trouverez chez Organic Basic. Alors attention, il est en Tencel, donc c'est une matière écologique produite à partir de pulpe de bois. Donc on le trouve en blanc, bleu marine, en noir.
C'est doux ça le Tencel ?
C'est extrêmement doux et agréable à porter. Donc on a des lignes très épurées, organiques, près du corps, très écologiques. Donc on est à partir de 39€ le Marcel. Pour les plus futuristes, la marque Seagal avec des vêtements du futur.
Alors Seagal, ça s'écrit S-E-A-G-A-L-E. Hein,
exactement. Donc il serait déjà en train de passer commande. Pas comme une Cigale. Voilà. Et donc là, on a des caleçons avec des nouveaux mélanges de matières, de la laine extra fine, de l'élastane pour un confort optimal. On a aussi une marque qui nous fait quelque chose de très technique, donc Akinom, imaginé par Florian Werner. Et là, on est sur des slips et des boxers dotés d'un front nest. C'est le petit nid, vous savez, sur le devant, qui permet de maintenir...
Petit nid, c'est mignon.
C'est mignon, hein, c'est très métaphorique.
Le petit nid pour le petit oiseau.
Le petit oiseau, ou l'oiseau plus gros, d'ailleurs, enfin, ça dépend. Qui permet de maintenir les parties intimes afin d'éviter tout frottement indésirable et toute sensation de collant. Donc, c'est vraiment très agréable à porter, très confortable pour monsieur aussi, qui demande du confort aujourd'hui.
Je crois que vous avez aussi des slips créateurs.
Oui.
étonnant. Alors, je pense qu'ils vont vous plaire, ceux-là. Écoutez bien, donc on a plus créateur et plus atypique hein, chez le styliste Louis-Gabriel Nucci, qui nous a décliné en trois coloris un jersey de coton. Le slip est proposé dans une cote irrégulière et autour d'un élastique très confortable. Alors, pour accompagner le lancement de son slip, il a fait une campagne publicitaire très jolie qui reprend les petites annonces érotiques et les encarts publicitaires généralement vus en fin de magazine. Une petite plongée dans le passé, une façon de nostalgie de célébrer le 3615 Ursula ou Patrick.
Et enfin, il faut expliquer que le 3615 c'était le Minitel. Imaginez si des jeunes nous écoutent.
Oh, c'est vrai. Oh, ça m'a mis un coup de vieux.
Il serait perdu tout d'un coup là. Oh,
c'est difficile. Et j'ai autre chose aussi encore de plus dément. Est-ce que je vous en parle?
Oui, alors,
là on est vraiment, comme c'est la semaine des défilés, je voulais quand même célébrer ça au travers d'un peu de couture. On a un jockstrap aussi.
Oula, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors j'explique. Alors le jockstrap c'est très technique. C'est utilisé au départ pour les sportifs. C'est un slip qui assure un certain maintien, mais laisse par contre les fesses à l'air. C'est un peu comme un suspensoir, ouais. Si je puis dire. D'accord. Doté d'une poche avant puis d'une ceinture élastique.
Poche avant, c'est pour le petit nid encore.
C'est pour le petit nid, exactement. Très joli petit nid. Et du coup, on a donc vraiment. C'est une histoire de maintien. Il soutient donc très bien pendant le sport.
C'est notre Wonderbra à nous, un peu.
Un petit peu. Il soutient et remonte. Donc très plébiscité par les sportifs. Il est sorti du vestiaire sportswear pour être détourné. Alors c'est vrai qu'on l'a aperçu auprès d'acteurs connus, comme Sacha Baron Cohen.
J'en ai déjà vu.
Voilà, donc là,
sûr.
C'est un peu drôle. Le maillot fluo qui célèbre les fesses. Et là, on a un créateur, Vincent Frédéric Colombo, que la fashion adore, qui est fondateur de la marque Créole, ce qui signifie conscience relative à l'émancipation outrepassant les entraves.
C'est un acronyme, en fait,
ouais,
Créole.
Exactement.
D'accord.
Donc, il célèbre aussi ses origines. Et lui, il a voulu créer un jockstrap en crochet. Attention, je l'ai posté. Avec des motifs décoratifs floraux. Une pièce qui bouscule les idées sur la virilité, réalisée en édition limitée. Alors, le jockstrap à crochet en fleurs, vous coûtera quand même la modique somme de 960 euros. C'est vrai que pour avoir les fesses à l'air, c'est un peu cher.
En plus, ça vous plaît, le jockstrap là,
c'est artistique.
C'est une démarche très modeuse.
Pour Monsieur Maudravier, le jockstrap.
Je suis sûre que ça lui irait très très bien. J'espère qu'il nous écoute et qu'il va l'acheter directement.
Jockstrap Saint-Valentin bientôt, une petite idée cadeau.
C'est super, mais écoutez, à 960 euros, j'imagine qu'il faut le changer tous les jours. C'est quand même un slip.
Écoutez, Julia, il vaut mieux. Il vaut mieux.
Il est pas auto-lavant.
Non, et puis surtout, en crochet, ça se lave à la main. Donc j'imagine.
Quelle galère.
Voilà. On va opter pour des slips plus simples.
Comme je dis au vendeur, je réfléchis, je reviens, madame. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Brafman, pour toutes ces jolies prescriptions pour ces messieurs. On va les laisser choisir ce qu'ils préfèrent parmi la chouette sélection que vous nous avez proposée ce midi. Et nous, on revient dans quelques minutes avec d'autres tendances, notamment un nouveau réseau social, Kiligi. C'est Soizic Belin qui va nous le présenter. Et celui-là, pour le coup, il serait totalement bienveillant. On n'y trouverait que de bonnes ondes. Enfin, elle aussi n'est que bienveillante. C'est Maud Ravier, notre experte beauté. Elle va nous donner ses conseils, ses astuces de spécialiste pour prendre soin de ses pieds. Donc restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et demi. Et notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueuses du jour. Alors, on a bien noté les prescriptions en matière de lingerie de dessous pour monsieur avec Sophie Brafman, il y a quelques minutes, des dessous masculins. Oui, si on pense à tout le monde, vous l'avez vu, c'est pas une émission de filles, des conseils pour tout le monde. Alors, c'est maintenant au tour de Soizic Belin de nous présenter sa trouvaille du jour. C'est une appli pour hommes ou pour femmes. Là aussi, c'est pour tout le monde. C'est que du positif pour tout le monde, c'est ça, Soizic, aujourd'hui.
Pour les plus jeunes, surtout. Ouais. Cible les plus jeunes. Alors, vous savez, les médias en parlent pas mal. Les cabinets de pédopsie sont débordés. Les jeunes ne vont pas très bien. Faute à la pandémie, on constate une forte hausse des chiffres concernant les appels à l'aide des jeunes. Et comme nous sommes dans une émission Feel Good et que nous mettons en avant les initiatives Care, qui procurent du bien-être, je me suis intéressée à quelques applications et à une en particulier qui va vous mettre du baume au cœur. J'aimerais pouvoir crier un cocorico un peu chauvin, mais non, cette initiative n'est pas française, même si elle est tout à fait utilisable par tous les francophones. Elle s'appelle Kiligi, un nom un peu désuet.
Ça s'écrit comment?
K-I-L-I-G-I.
C'est un petit côté guili-guili, je trouve.
Ouais, c'est mignon.
C'est
doux,
c'est mignon.
C'est mignon. Donc, c'est un petit nom un petit peu désuet. C'est un logo enfantin aux attraits d'émoticônes. C'est un petit sourire pour une application qui propose à ses abonnés de se raconter, de se confier, de dire la vérité. Finalement, un réseau social qui, à l'inverse d'Instagram, n'est pas là pour vous en mettre plein la vue avec followers, pas là non plus pour promouvoir un train de vie particulier, mais pour vous permettre de vous dévoiler réellement cette fois-ci. Alors, bas les masques.
Alors, en fait, Kiligi, c'est un peu comme un journal intime, sauf que c'est pas si intime que ça, c'est ça ?
C'est ça. Kiligi, c'est le moyen de faire passer sa rage, sa colère, sa tristesse en postant son mood, son état d'âme, ce que l'on attend de ce poste, entendez par là ce que vous attendez des autres followers, hein, une écoute, de l'aide, échanger, des conseils ou juste être lu. Et il faut préciser la thématique de son poste. Est-ce qu'on va parler de sa famille, de ses amis, de ses amoureux, de ses camarades de classe, d'une angoisse, d'un cauchemar ? Suite à cela, il suffit d'attendre que, l'interaction se fasse avec les autres abonnés. Alors, cette application est toute jeune. Elle est utilisée dans sa version actuelle depuis septembre et elle compte actuellement 10 000 abonnés. Ils sont âgés entre 12 et 25 ans, même s'il y a des plus âgés sur la plateforme.
On a le droit d'y aller si on a 39 ans, par exemple.
On a le droit d'y aller. Et le but, vous l'aurez compris, est de constituer et de préserver une communauté bienveillante qui puisse répondre comme une alternative aux réseaux sociaux démonstratifs tels que le Facebook, Insta, TikTok, Snapchat, qui sont là pour vous encourager à grossir les traits de votre vie en la rendant plus glamour et surtout qui vous incite à travailler vos posts pour obtenir des followers et gagner en popularité. Ici, avec Kiligi, Maxime Villain le dit, hein, le créateur. On,
il parle d'ailleurs... Il s'appelle Villain, c'est pas vrai. Oui, pour un site bienveillant, c'est trouver celui-là.
Oui. Donc lui, il parle de dopamine inversée, puisqu'on gagne en popularité en venant aux aides aux autres. Alors justement, j'ai échangé avec le créateur de cette application et je lui ai demandé qui étaient ceux qui venaient systématiquement à la rescousse des abonnés déprimés, qu'il nomme d'ailleurs des super-héros.
Les super-héros, ce sont des personnes qui n'ont plus forcément de problèmes, là, maintenant, mais qui aiment aider, qui passent du temps sur Kiligi pour apporter leur soutien et pour parler de leur vécu. En d'autres termes, c'est l'entraide entre pairs, un peu comme les alcooliques anonymes. Ils n'ont pas un profil particulier ni d'âge spécifique. Leur point commun, c'est vraiment d'avoir vécu quelque chose. Elles vont trouver, en fait, les bons mots pour rassurer la communauté grâce à leur expérience passée.
Alors je me suis inscrite sur cette application, j'ai pas écrit de post, je n'ai pas simulé un mal-être, hein, je ne trouvais pas ça correct hein, de venir envahir un lieu care, safe, destiné aux jeunes qui en ont besoin. Mais il est vrai que mon regard a vite capté pas mal de posts déprimés, de jeunes en souffrance. Alors je me suis demandé quel était le pourcentage de posts joyeux par rapport à celui des posts mélancoliques. Maxime Villain y répond très justement.
Oui, nous avons des chiffres. Quand on scrolle en fait la timeline, on a une tendance à placer notre attention en fait sur le négatif. Pourtant, quand on analyse nos stats, il n'en est rien. En fait, c'est même plutôt équilibré. Nous avons 36% de positifs, 38% de négatifs, dont 12% d'appels à l'aide. Et 26% qui sont des posts en fait, assez neutres.
Alors, il y a une autre astuce, hein, ce sont les filtres. Vous pouvez choisir de ne pas voir de messages tristes et vous laisser ainsi envahir par le bien-être en lisant que les posts joyeux, positifs, encourageants. Alors, l'application est actuellement dans une version gratuite, mais à court terme, elle sera payante pour certaines options, dont une qui me semble très intéressante, ce sont les statistiques personnelles, une sorte de journal de bord de votre humeur.
Pas mal, c'est une bonne idée, je trouve ça. Vous voulez dire que l'application, elle fera un bilan de nos posts pour nous dire voilà, vos statistiques hein, sur votre humeur, sur cette période donnée, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Vous pourrez savoir si vous avez tendance à vous réjouir, à déprimer, à vous apitoyer, sur votre sort. Cela vous offrira un véritable outil de développement personnel. Alors, je rappelle que cette application est destinée aux plus jeunes. Hein, il suffit de lire les thématiques récurrentes abordées dans les posts, vie scolaire, amour et automutilation. C'est un sujet qui revient de manière récurrente. Alors, au lieu d'y voir quelque chose de glauque, cette application est une initiative qui permet à ces jeunes de décharger, de s'exprimer, de trouver des oreilles attentives proches des leurs, des oreilles qui ne sont ni celles de leurs parents, ni celles d'un psy.
Mais alors justement, si on peut lire des messages d'appel à l'aide, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait avec des médecins par exemple ?
Alors Maxime Villain insiste sur la confiance qu'il souhaite préserver. Cependant, si un abonné se montre de façon récurrente dans un état de détresse, il est possible pour l'application d'entrer en relation avec les urgences, le SAMU, les pompiers ou la police.
Bon, cette application, c'est une première du genre vraiment, Soazic ?
Alors celle-ci est belge, mais ce n'est pas la première. Elle fait suite à une autre application qui est chinoise, qui a été lancée, qui s'appelle Filiu, sur le même système et les mêmes pratiques. Alors j'aime bien la formulation maître du baume au cœur, hein, puisqu'on trouve trop souvent tendance à désigner les applications et les réseaux sociaux comme étant les coupables de pas mal de maux, MAUX actuels. Ici, ces réseaux sociaux proposent une mise en contact pour des raisons, disons, plus altruistes.
Oui. donner sans reprendre.
C'était circonstance.
Ah ouais.
Ouais. Et bien écoutez, merci pour cette belle découverte. Hein, franchement, moi, sortie de TikTok, Twitter ou Instagram, j'y connais, c'est pas grand chose. Merci si c'est vraiment un réseau social qui fait du bien. On valide complètement. À présent, on va se faire du bien esthétiquement parlant grâce au conseil toujours précieux de notre spécialiste Maud Ravier. On va prendre notre pied, comme le disait Mélanie ce matin. Alors.
Tout à fait. Bah, il ne faut pas négliger les pieds pendant l'hiver parce qu'on a l'impression qu'ils sont protégés, ils sont bien emmitouflés dans les chaussures, mais ils prennent quand même très sévèrement aussi les pieds. On doit vraiment les chouchouter.
D'accord, parce que moi j'ai l'impression que c'est en été qu'ils sont plus secs à force de marcher pieds nus, mais en hiver j'ai tendance à les oublier. Alors justement, Maud, c'est vrai que l'hiver, comme on les oublie, bah vous pouvez peut-être nous donner quelques astuces hein, pour qu'ils soient mieux dans nos baskets.
Tout à fait. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de les gommer. Bon, on le dit tout le temps, il n'y a pas vraiment de surprise, mais je vous ai trouvé une petite astuce assez géniale, c'est avec du bicarbonate de soude. C'est vraiment multi-usage, on peut faire plein de choses. Et le fait de tremper les pieds avec une mixture que je vais vous donner maintenant, ça va
mais bicarbonate qu'on met dans la cuisine, pour cuisiner des gâteaux par exemple.
Exactement, ça peut être le bicarbonate de soude alimentaire le mieux. Donc vous allez voir que vos peaux vont complètement se décoller. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de venir retirer soit les petites crevasses, soit les petites callosités.
Et c'est quoi votre recette?
Peuvent être douloureuses. Alors la recette, c'est 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, votre gel douche habituel, et puis après vous avez deux options. Deux options, ça veut dire quoi? Soit vous avez envie de passer une soirée détente et dans ce cas-là, vous allez prendre les huiles essentielles de lavande ou d'orange douce. Soit vous avez envie de passer une soirée un petit peu plus dynamique et dans ce cas-là, vous allez prendre eucalyptus ou menthe poivrée.
D'accord. On trempe du coup tout ça, nos pieds dedans?
Tout à fait.
Vous laissez une petite mixture en bain de pied.
Vous laissez vraiment poser, c'est très important, vos pieds, parce que c'est comme ça que la peau va se ramollir, 10 à 15 minutes dans une eau tiède. Et une fois que la peau se sera ramollie, vous allez frotter, masser vos pieds, c'est très important. Utilisez une pierre ponce ou des brosses exfoliantes. En pierre ponce, vous avez les électriques qui sont très efficaces. Ça va vous retirer les callosités et pour celles qui sont un petit peu plus abîmées, toutes les crevasses.
Mais moi, j'adore coller mes pieds glacés contre la personne aimée.
Mais évidemment,
c'est vrai, qui aime moins.
Évidemment, c'est la base parce que du coup, ça permet d'avoir les pieds bien glacés,
les coinces entre ses mollets.
Voilà, c'est ça. Ça rafraîchit.
C'est très féminin de faire ça, j'ai l'impression.
Ouais, les mecs, ils le font moins.
Ouais, ils sont pas très contents quand on le fait en général.
Mais complètement. Alors pourquoi c'est féminin? Parce qu'il faut savoir quand même que les hommes, évidemment, n'ont pas de problème de circulation ou très peu, n'ont pas de problème de cellulite. Bon, ils ont bien d'autres problèmes, évidemment. La calvitie, la mauvaise haleine, les tendinites de pouce avec la télécommande. Mais en tout cas, ils n'ont pas les pieds glacés.
Moi, je préfère avoir les pieds glacés, moi.
Voilà, c'est clairement ça. Mais alors, pourquoi nous, les femmes, nous avons les pieds glacés? Tout simplement parce que nous avons souvent des problèmes de circulation. C'est pour ça que je vous dis qu'après votre gommage, il faut que vous fassiez une vraie friction.
Comme un massage. Hein,
exactement. On va commencer par un massage détente. Et ce qui est très bien, c'est de finir avec une friction et surtout un massage des mollets. Ça va relancer la circulation et vous allez vraiment récupérer des degrés au niveau de vos pieds.
Bon, on peut peut-être demander à monsieur ou à son compagnon en tout cas de le faire, comme ça on n'aura plus besoin de venir se réchauffer sur ses pieds en plus.
Et concernant les ongles, est-ce qu'il faut les laisser au naturel durant l'hiver ou c'est bien justement de profiter de l'hiver pour faire une pose de vernis?
Vous en mettez vous en hiver?
Ouais, tout le temps, du vernis semi-permanent.
Oui. Sur les pieds aussi?
Bien sûr.
Ah ouais. Alors moi j'aime bien effectivement faire des petites poses parce que le vernis semi-permanent a tendance à assécher et peut un peu dédoubler, ça étouffe un petit peu l'ongle. Donc moi je pense que 2-3 mois un petit peu de pause, c'est pas mal du tout. Mais vous pouvez aussi utiliser dans ce cas-là des soins, des vernis à ongles durcisseurs, fortifiants, qui ont tendance à vraiment protéger votre ongle pendant l'hiver. On a des traitements qui sont utilisés pendant les chimiothérapies où on sait que les ongles sont très fragilisés. Donc
avec
c'est du silicium.
Exactement.
Donc n'hésitez pas. Et puis après, la petite astuce pour éviter les ongles incarnés, parce que souvent on a les pieds serrés dans les chaussures, on va couper les ongles. Surtout, on n'oublie pas de limer les côtés, parce que vous pouvez être sûr sinon que vous faites des petits ongles incarnés. Et on ne coupe pas les petites peaux autour des ongles, sinon on risque aussi de se faire des petites infections.
C'est pour ça que vous achetez des chaussures beaucoup plus grandes, vous, en les baskets, ça ne vaut pas avoir d'ongles incarnés, c'est ça?
Non, je chausse du 41.
Ah, désolée.
J'ai des grands pieds. Maud, pourquoi vous dites que les ongles finalement souffrent de la mauvaise circulation? Moi, je pensais que c'était surtout l'été, avec la chaleur, qu'on avait ce genre de problème.
Oui, bien sûr, mais le pied étant serré, les chaussettes étant pareil, souvent pas très adaptées, il faut vraiment privilégier les chaussettes chaussettes qui montent au niveau des genoux avec des bords larges, au niveau des élastiques. Mm-hmm. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est au niveau de l'hygiène. On va plutôt privilégier des chaussettes respirantes parce que le synthétique, merci l'humidité, la transpiration, vous créez des petites mycoses. Donc, on va vraiment privilégier tout ce qui est chaussettes 100% coton bio, soie, cachemire si on veut se faire plaisir. Mais en tout cas, mesdames, choisissez des chaussettes qui vont pouvoir aussi vous permettre d'avoir un accessoire de mode, pourquoi pas.
Oui, très belles chaussettes, vous avez raison, j'en ai en paillettes, moi.
Merci beaucoup, Maud, pour cette chronique bienveillante, elle aussi. On vous a proposé une émission particulièrement feel good aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, car bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous serons bien entendu de retour demain, à la même heure, dès 11h. Et Julia, demain, quel sera notre premier sujet?
Alors, Mélanie, demain, on va s'intéresser à quelque chose de très important à la radio et dans notre vie à tous. Le physique. Non, je rigole, c'est la voix. La voix, attention, V-O-I-X. On va tout vous expliquer sur cet instrument, comment fonctionnent nos cordes vocales, comment en prendre soin. Bref, on vous mettra tout simplement sur la bonne voie, V-O-I-E.
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarmes.